la grande édition, c'est avec Inès Lorangopo. Inès, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane et bienvenue à tous dans cette édition, les titres. Jeu de ping-pong entre l'association des victimes des mutineries et le cardinal Dieudonné Nzapaléinga. L'organisation l'accuse d'avoir détourné 82 milliards. Diffamation, brandit le cardinal qui décide de déposer plainte. La COD 2020 prend acte du rapport de la commission d'enquête spéciale. Réaction à suivre dans ce journal. À suivre également le reportage au quartier Tokoyo dans le 3e arrondissement de Bangassou dans le Mbomo. La localité a renoué avec son ambiance d'autrefois. Le ministre de la Jeunesse et des Sports saisit la Cour des comptes. Il veut avoir d'éclaircissements sur la gestion des fonds alloués par l'État à certaines fédérations.
À la une de cette édition, Inès, affaire réparation des victimes de mutineries en République centrafricaine. La bataille judiciaire s'ouvre entre le cardinal Dieudonné Nzapaléinga et les responsables de l'association des victimes.
Ces victimes accusent le cardinal et même la présidence d'avoir détourné 82 milliards de francs CFA. Le cardinal refute les allégations, parle d'une campagne de diffamation et dépose plainte. Jean-Fernand Quina a suivi ce dossier.
Cette affaire remonte courant 2017 selon les victimes. Elle persiste et signe que le Saint-Père aurait envoyé 82 milliards pour leur réhabilitation après les préjudices qu'elles ont subis lors des mutineries de 1996-1997 en République centrafricaine. Antoine Yitekombi accuse le cardinal Dieudonné Nzapaléinga et la nonciature apostolique d'avoir détourné cette somme faramineuse.
C'est un don du Vatican qui est arrivé depuis 2017. C'est le cardinal Nzapaléinga qui est chargé d'indemniser les victimes des mutineries de 1996-1997. Vous voyez, depuis 2017 jusqu'à ce jour, le cardinal ne donne toujours pas cet argent aux victimes. Nous avons une preuve humaine en la personne de Alain Limbindoni Limbio. Nous avons même écrit également au chef de l'État, quand cet argent est arrivé, ce nonce a eu sa part.
Pour clarifier et apaiser les victimes, une démarche avait été menée par le cardinal. Ce dernier leur a fait savoir qu'elles étaient dans l'illusion, mais elles refusent de le croire. Le goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le sit-in hier à l'archevêché de Bangui. Dépassé, Dieudonné Nzapaléinga appelle à la fin d'abus et opte pour le chemin de la justice pour le laver de tout soupçon.
L'association des victimes de mutinerie nous a saisis. J'ai demandé si cette association a un papier. Je n'ai reçu aucun papier. J'ai aussi demandé est-ce qu'il y a des traces de virement. Je n'ai rien reçu. À la date d'aujourd'hui, j'ai demandé, comme indique la banque où on a domicilié les 82 milliards, on ne m'a pas montré. J'ai demandé à quel moment le président Touadéra a retiré 10 milliards, on ne me l'a pas montré. Et il est de mon devoir de clarifier et de demander à cette association qui a demandé à ses adhérents de leur verser 11 000, de restituer les 11 000 aux pauvres victimes. Et deuxièmement, nous allons porter plainte pour que la vérité soit faite.
Les victimes se disent prêtes d'affronter la justice, elles qui, jusque-là, était à l'état primaire au niveau de la police. C'est une bataille judiciaire qui ne fait que commencer.
Et puis Inès, des réactions continuent de tomber quelques jours après la publication du rapport de la commission d'enquête spéciale.
Après la Ligue centrafricaine des droits de l'homme, LCDH, la coalition de l'opposition démocratique COD 2020 prend acte du rapport de la commission d'enquête spéciale pour Sostène Guitel Dilam Koro, président en exercice de cette coalition. Le gouvernement doit aller jusqu'au bout du processus. Il l'a dit au de Armand Yanguindi.
Vous savez bien que ce sont des rapports qui ont été montés par les Nations Unies et ensuite d'autres instances. Et donc le gouvernement avait en son temps démenti le contenu de ces rapports. Et si maintenant le contre-rapport initié par le gouvernement vient confirmer certains faits, ça veut dire que quelque part il y a eu des avancées. Et donc nous suivons ces avancées-là. Comme tout le monde, nous avons suivi les résultats à la radio. Et donc nous suivons de très près l'évolution de la situation.
La commission d'enquête spéciale était chargée de faire la lumière sur de graves violations de droits de l'homme, des faits documentés par la MINUSCA et attribués aux forces armées centrafricaines et leurs alliés russes. Ceci pendant la contre-offensive contre les rebelles de la CPC. Après 5 mois d'enquête, la commission affirme certaines violations dont une bonne partie est attribuée aux rebelles de la CPC.
Le monde célèbre ce 5 octobre la Journée mondiale des enseignants.
Cette journée, c'est pour sensibiliser sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité de leur travail ici en République centrafricaine. Dans quelles conditions vivent les enseignants ? Reportage de Prudence Gisèle Huguet.
Maxime enseigne à l'école primaire depuis plus de 10 ans. Il déplore les conditions de vie de ceux qui façonnent les cadres du pays.
Par exemple, je prends mon cas, moi qui suis enseignant instituteur. 82 000 avec 5 enfants scolarisés. Combien va être viré pour l'éducation des enfants? Combien pour le loyer? À quand est-ce je peux m'affirmer pour préparer l'avenir de mes enfants? C'est pas facile de joindre les bouts. On est obligé de fabriquer les coûts, de rentrer dans les quartiers, enseigner par-ci par-là pour vraiment joindre les bouts.
Le coût de la vie a évolué alors que le salaire de l'enseignant est resté stable pendant 30 ans, inférieur à 90 000. Maxime dénonce une injustice entre le traitement des enseignants et les autres fonctionnaires.
Nous attendons du gouvernement d'être reconnaissant envers les enseignants. Nous avons constaté que dans d'autres départements, dans d'autres corps, il y a augmentation de salaire, il y a les reconnaissances des statuts. La vie de certains fonctionnaires de ce pays change du jour au lendemain. Mais pour les enseignants, c'est autre chose. C'est comme si nous sommes abandonnés à nous-mêmes.
Aujourd'hui, des enseignants quittent régulièrement la profession pour d'autres métiers. Rancia, quant à elle, met en avant la vocation.
C'est par vocation et non par nécessité. C'est par rapport à ma maîtresse. Lorsque je suis encore enfant, elle m'a enseigné en classe de CE2. Lorsque je l'ai vue, sa manière de l'enseignement, ça me pousse à devenir une maîtresse dont je suis fière de devenir enseignante.
La cause de la baisse de niveau est attribuée à partie aux enseignants en République centrafricaine. Pour relever le défi, beaucoup d'observateurs pensent qu'il est temps pour le gouvernement d'améliorer les conditions de vie des enseignants qui forment les cadres du pays.
13h06, le journal se poursuit sur Radio Ndekelo Kaines, direction à présent le quartier Tokoyo, dans le 3e arrondissement de Bangassou. Dans le Mbomo, ce secteur renoue avec son ambiance d'autrefois.
En ceci, grâce au retour progressif de la paix qui favorise le vivre ensemble entre les habitants, la population sous toutes ses formes a décidé d'enterrer l'âge de guerre et se met résolument au travail. Tokoyo et ses ambiances, c'est un reportage de Radio Ndikiluka réalisé par Rolf Steph Domialu.
Ici, c'est Tokoyo, les habitants le surnomment Japon, en hommage à Tokyo, capitale de ce pays asiatique. Les habitants ont enterré la hache de guerre. Partout, l'ambiance est conviviale. Ce soir, à la gare routière, le soleil est à l'ouest. Les vendeurs et vendeuses de galettes, Shikwang, Bouyi, Kirishi, Kurokuro et autres beignets vendent leurs marchandises devant les magasins. Amandine Batopo est heureuse de retrouver l'ambiance d'Aton.
On s'amuse entre nous parce qu'il y a la paix. Il y a de l'amour inconditionnel entre nous. On vit en parfaite harmonie avec nos voisins et nos frères.
Non loin de cette gare, Oumar, Ali et ses amis écoutent de la musique et boivent du thé, ce qu'ils appellent communément chai. Selon lui, il n'y a rien de plus important que la paix.
Il y a de l'ambiance. Chacun peut sortir et rentrer à l'heure qui lui convient. Il y a certains commerçants qui gardent leur boutique ouverte jusqu'à 24 heures. Les gens se promènent même jusqu'au petit matin parce qu'il y a la sécurité.
Cette paix est consolidée grâce aux multiples sensibilisations, selon Pierrette Benguéré, prophète du Bon.
Ce sont les multiples sensibilisations qui ont été faites avec l'appui de la MINUSCA et de nos partenaires sur la cohésion sociale qui a prévalu cette sécurité et cette vie en société, cette cohésion sociale entre la population du Mbomo.
En début d'année, Tokoyo a été secoué par des violences. Plusieurs habitants ont quitté leur domicile pour se mettre en lieu sûr. Aujourd'hui, ils sont de retour et ils unissent leurs forces pour développer la région.
Il était fort.
Rolf Step Domialu de retour de Bangassou, Radio Ndekeluka.
Et puis Inès, les habitants de Njuku dans la Kemo disposent désormais de 2 nouveaux centres de santé.
Oui, Verdiane, une réalisation de l'ONG Caritas à hauteur de 12 millions de francs CFA. Une bouffée d'oxygène pour la population qui voit en ce projet un palliatif aux difficultés d'accès aux soins dans la localité. Les précisions de Serge Romial d'Amélé depuis sa
Le buteur. Premier centre de santé est situé dans la commune de Galabadja à 30 km de Njuku sur l'axe Njuku-Kwango. Un bâtiment de 12 mètres sur 10 composé de 5 salles, notamment un bureau, une maternité, une salle de soins et une pharmacie. La seconde infrastructure se trouve au village Mourougozo, situé à 15 km de Ndjoukou. Une maison de 10 mètres sur 8, composée de 4 salles et dotée des produits pharmaceutiques. La population se réjouit de cette réalisation et attend une gestion transparente de ce patrimoine communautaire. Aimé Martin Yakizi, habitant de Ndjoukou.
Caritas nous a écoutés, nous a aidés. Avec des produits médicaux, nous pouvons nous soigner, être forts, cultiver le champ, faire tout ce que nous voulons. Je dis à mes parents, la population du centre Galabadia, ne pas s'arrêter le bâtiment, réhabiliter, ne pas voler les médicaments que le Caritas nous a amenés, être vigilants et nous sommes d'accord.
Selon nos informations, ces deux centres de santé n'ont pas encore de personnel qualifié pour une bonne prestation auprès de la population. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la relance des structures sanitaires financé par la Caritas Allemagne. Serge Romial Damili, de retour de Ndjoukou, Radio Ndekeluka.
Vous écoutez le journal de Radio Ndekeluka. Bientôt, les centres africains peuvent accéder au musée Buganda sur Internet.
Les travaux de numérisation des lieux historiques et des objets exposés dans ce musée avancent bien, selon Abel Coton, directeur du musée. Sur 3500 objets, plus de 2500 sont déjà numérisés. L'objectif est de protéger ces collections et faciliter à tous les centres africains, l'accès à cette maison culturelle et historique. Abel Coton est au micro de Francisca Vercala.
Nous avons préconisé, numérisé toutes les collections du Musée national Bartholomew-Buganda. Mais du moment où les collections sont encore dans des caisses, nous avons souhaité commencer par les fiches. Les fiches-là ont des numéros, ont des dates, y compris les objets. Les objets également ont des numéros, ont des dates. Donc nous allons d'abord commencer à filmer ces objets et puis compléter avec les fiches qui sont déjà numérisées. Parce que quand vous rentrez une donnée pour ce qui concerne le cas du musée, vous voulez faire une recherche. Donc vous allez d'abord trouver les fiches avec tous les renseignements et à côté l'objet. Il fallait que l'objet concorde avec ces fiches-là. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire.
Actualité internationale, Inès, au Burkina Faso, au moins 14 soldats tués hier lors d'une attaque dans le centre nord du pays.
Selon RFI, des sources sécuritaires affirment que c'est le détachement militaire de Yirgo qui a été visé par des hommes armés. Au moins 14 militaires ont été tués et plusieurs blessés ont été enregistrés. Le commandement militaire indique aussi que plusieurs assaillants ont été neutralisés.
Parlons aussi de cette perturbation hier sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger avaient connu de dysfonctionnements.
Oui, Verdiane, c'est une panne géante d'aiguillage qui a mis Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger à genoux. Ces réseaux sociaux ont subi une panne qui a duré plus de 7 heures hier. Cela a affecté des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde. Les techniciens sont parvenus à résoudre le problème. Ces applications sont de nouveau opérationnelles. Claire Assambadinga pour la page sport. Claire, bonjour.
Bonjour Inès Longopo, bonjour à toutes et à tous.
Le ministre Aristide Briand-Rubois saisit la Cour des comptes pour exiger la justification des fonds de l'Afrobasket 2021 et des Jeux Olympiques de Tokyo.
Il a annoncé samedi dernier dans une conférence de presse à Bangui. Aristide Briand-Rubois dit avoir constaté une mauvaise gestion des subventions accordées par l'État à certaines fédérations, par exemple 140 millions pour le basket et 32 millions au Comité national paralympique. Aristide Briand-Rubois, ministre de la Jeunesse et des Sports.
Le constat est fait, est implacable, que le rapport que j'ai reçu ne reflète pas la réalité. Et j'ai démontré techniquement qu'il reste encore de l'argent. Alors cet argent-là, si ça reste, il faut qu'on reverse ça au trésor. Bon, maintenant, il appartient à l'inspection générale d'État, à qui j'ai déjà envoyé les dossiers, de pouvoir me dire à tel niveau, il y a eu tel manquement. Donc moi, je ne suis pas juge, mais les enquêteurs feront aussi leur travail en fonction des éléments d'information et des témoignages des joueurs que j'ai reçus. Parce que souvent, on ne parle qu'aux fédérations, on ne parle pas aux joueurs. Et c'est eux qui, des fois, subissent des choses. Et ils sont aussi d'accord pour témoigner au cas où on leur demanderait de faire. Le Paralympique Comité m'a dit clairement que j'avais pas le droit de demander. Et pour lui, c'est le ministère de Finances. Je lui ai rappelé dans la charte des sports des dispositions qui me donnent le droit. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas me rendre compte à moi et deux jours plus tard, on vient me redemander encore de monter un dossier pour qu'on puisse avoir encore 3 millions. Mais entre-temps, pour que les 3 millions soient décaissés, il faut qu'on me justifie les 32 millions.
Pour l'instant, les fédérations n'ont pas encore réagi.
Football, jour J-2 pour la rencontre RCA Nigeria-Lagos. Ce match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.
Tout à fait, Inès. Les Fofs de Bazoubongi doivent quitter Douala au Cameroun aujourd'hui pour se rendre à Lagos au Nigeria. Ils vont affronter les Super Eagles du Nigeria le 7 et le retour le 10 à Douala. Cependant, les Fofs d'armes de moins de 20 ans vont également quitter Douala aujourd'hui pour se rendre à Abuja pour le match retour contre les Super Falcons du Nigeria. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022.
Basketball, le préparatif des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023. 26 joueurs sont présélectionnés dans la Ligue de Bangui.
Ils sont convoqués par la Direction Technique Nationale. La première séance d'entraînement a eu lieu ce matin au Palais des Sports à Bangui. La RCIA se trouve dans le groupe C aux côtés de la Côte d'Ivoire, de l'Angola et de la Guinée-Conakry. La phase aller se jouera en novembre dans un pays qui n'est pas encore désigné. La 19e édition de la Coupe du Monde de basketball masculin se déroulera en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023.
Et c'est la fin de ce journal sur les 100.9 FM. Reste branché pour la version longue nationale. C'est tout de suite.